Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
À la une, la descente aux enfers en Syrie. Le pays brûle, son économie s'effondre. Alors que les puissances occidentales s'interrogent sur l'action de force à mener, des voix s'élèvent pour aider financièrement les communautés chrétiennes. Catholiques, protestantes ou orthodoxes, elles s'efforcent de distribuer aux chrétiens comme aux musulmans les produits de première nécessité. Les aumôniers militaires ont un rôle cultuel, mais pas seulement. Ils apportent également une aide morale et spirituelle en accompagnant les militaires sur terre, dans les airs et en mer. Vous entendez André Monseigneur Ravel dans le cadre de nos rediffusions estivales. Il y a 35 ans, les cardinaux élisaient Jean-Paul Ier, une personnalité qui rappelle celle du pape François. Le pape François qui apparaît comme revigoré selon un prêtre de Buenos Aires qu'il a revu après des mois. Il a des tas d'idées, nous a-t-il confié. La Syrie, un des plus anciens pays au monde, risque l'anéantissement. Avec en toile de fond le spectre de la catastrophe irakienne, la population vit dans l'angoisse. Pour le représentant du Saint-Siège à Damas, le pays est au bord de l'abîme. Sur notre antenne, Mgr Mario Zenari a invité la communauté internationale à la sagesse et à la prudence. Il faut certes empêcher d'autres atrocités, souligne-t-il, mais il faut aussi prendre garde à ne pas compliquer ultérieurement la situation. Pour sa part, l'évêque chaldéen d'Alep a averti qu'une intervention militaire pourrait déclencher une guerre mondiale. Mgr Antoine Audeau est favorable à une force internationale qui aide à dialoguer et pas à faire la guerre. Sur place, la situation est catastrophique. Thomas Chabol.
En Syrie, il n'y a plus ni travail ni nourriture. Dans ce contexte terrifiant, les chrétiens qui bénéficiaient de la liberté religieuse se sentent aujourd'hui très seuls. Leur communauté manque de moyens. En France, l'œuvre d'Orient appelle à une aide concrète pour répondre à leur drame. Dans un communiqué publié le 22 août, Mgr Pascal Golnisch déplore de graves pénuries d'alimentation à l'intérieur du pays, mais aussi la situation inquiétante des chrétiens réfugiés dans les pays frontaliers. Au Liban, en Jordanie et en Turquie, les chrétiens ne se sentent pas bienvenus dans les camps et préfèrent se réfugier dans les paroisses, les écoles, les monastères et les jardins. Il y a 3 ans, la Syrie avait un taux de croissance économique de plus de 8%. Selon Mgr Indo, archevêque d'Assaké, les 3/4 des familles moyennes sont passées sous le seuil de la pauvreté. Les prix ont été multipliés par 10. Depuis 3 mois, il n'y a plus de lait pour les bébés. Dans certains quartiers de Homs, les gens vont bientôt s'entretuer pour de la nourriture. À cela s'ajoute l'hostilité des islamistes. Récemment, une église orthodoxe a été saccagée et pillée par les rebelles. Les bibles, les croix, les icônes ont été détruits. Est-ce la disparition des chrétiens que l'on cherche, s'interrogent certains. Depuis le début du conflit, des responsables des églises orientales chrétiennes critiquent farouchement les chancelleries occidentales et les omissions de la presse étrangère qui, selon eux, ne dit pas toute la vérité. Tandis qu'en France, Marc Fromager de la Fondation aide à l'église en détresse, n'hésite pas à affirmer que ce chaos a été instauré, alimenté et financé en grande partie depuis l'étranger.
Pour Frédéric Ancel, toutefois, il n'y aura pas d'intervention militaire internationale en Syrie. Le géopolitologue français nous a dit pourquoi au micro d'Audrey Radondi.
La première raison est liée à la capacité balistique, autrement dit de missile, de Bachar al-Assad, lui qui a, voilà, déjà 2 ans, menacé l'Occident de mettre le feu à la région. Il en a les capacités. Autant un Kadhafi ne le pouvait pas il y a 2 ans, autant Assad le peut. Il menace systématiquement le Golan sous contrôle israélien. Il pourrait frapper facilement la Jordanie, etc. Or, tous ces États sont alliés militairement des États-Unis. Ça signifierait une véritable escalade dans la région. Et ça, très franchement, personne n'en veut. Et puis la deuxième raison, plus importante encore, me semble-t-il, c'est la ligne rouge de Vladimir Poutine. Moscou, à plusieurs reprises, a montré une inflexibilité sur le dossier syrien, y compris au Conseil de sécurité, où il a posé 3 fois, avec Pékin d'ailleurs, son veto à tout type d'intervention extérieure. Alors, ça ne signifie pas que l'OTAN n'aurait pas les moyens d'agir. On a les moyens d'agir. Mais est-ce qu'on souhaite risquer une escalade avec la Russie? La réponse est non.
Et est-ce qu'il y aurait aussi la peur de retomber dans la même situation qu'en Irak?
Aujourd'hui, un certain nombre de personnalités disent, y compris en France, à commencer d'ailleurs par le ministre des Affaires étrangères, mais aussi par l'ancien ministre des Affaires étrangères, Alain Juppé, écoutez, si au Conseil de sécurité, ça continue à bloquer à cause de la mauvaise volonté de Moscou et Pékin, il faudra envisager autre chose en dehors du Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'on a reproché à George Bush il y a 10 ans, lui, et les 43 États, dont la plupart des grandes démocraties au monde quand même, qui sont allés en Irak en passant outre le Conseil de sécurité? On leur avait dit, notamment nous en France, on leur avait dit, mais enfin messieurs, c'est un scandale, vous ne passez pas par le Conseil de sécurité, c'est illégal en droit international, et vous allez faire votre propre guerre en Irak. Alors, en Irak, parce que Saddam Hussein était peut-être un bon client de la France ou des Européens, notamment sur le plan militaire, là, il ne fallait pas intervenir en dehors du Conseil, mais enfin, avec Bachar al-Assad, on pourrait le faire. C'est d'autant plus compliqué que Saddam Hussein lui-même avait déjà utiliser des gaz de combat à Al-Abja, village kurde, rasé, plus de 5000 civils assassinés au gaz de combat en 88, dans l'indifférence des chancelleries absolument totale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans, me semble-t-il, dans un vrai paradoxe par rapport à la guerre de 2003 contre l'Irak.
Le géopolitologue français Frédéric Ancel. Ce mardi, au monastère d'Ermar Moussa, qu'il a lui-même fondé en Syrie à 80 km au nord de Damas, on priera pour la libération du père Paolo Dall'Oglio. Le jésuite italien a disparu il y a environ un mois dans la région de Raqqa, où de violents combats auraient opposé ces jours derniers des milices rivales. 10 moines vivent encore dans ce monastère. Ils vont jeûner, méditer et prier avec des fidèles chrétiens et musulmans. Ils sont toujours sans nouvelles du père Dall'Oglio et ne savent pas s'il a été enlevé et par qui. Pour certains, il serait en grave danger. Il y a 35 ans, les cardinaux réunis en conclave choisissaient Jean-Paul Ier pour succéder à Paul VI, mort 20 jours plus tôt. Albino Luciani, patriarche de Venise, était âgé de 66 ans. Par le choix de son nom, il voulut rendre hommage à ses prédécesseurs les plus proches. Son pontificat aura été parmi les plus brefs de l'histoire, 33 jours à peine. Sa mort inattendue allait susciter toutes sortes de rumeurs et de spéculations qui ressurgissent régulièrement. Xavier Sartre.
Le pape au sourire, c'est ainsi qu'on l'appelait pour son incomparable douceur. Dans le seul discours Urbi et Orbi de son bref pontificat, il eut le temps d'affirmer que l'évangélisation était le premier devoir de l'Église, le temps aussi d'insister sur l'importance de l'œcuménisme, le temps d'exhorter les journalistes à être plus attentifs aux besoins de justice, de paix, de fraternité dans le monde. Jean-Paul Ier était humble et direct, comme un curé de paroisse qui aime par-dessus tout catéchiser et se mettre au service de la vérité chrétienne. Son sourire attachant ne parvenait pourtant pas à dissimuler sa grande fermeté et son indéniable probité. Aujourd'hui, les Romains rapprochent souvent le pape François de Jean-Paul Ier en raison de sa simplicité, de sa bonhomie et de son interaction avec la foule. Issu d'une famille modeste et rejetant le luxe et l'apparat, Albino Luciani avait de fait préféré à Venise renoncer à son bateau aux armes épiscopales pour circuler en vaporetto et transport public. Le patriarche avait scandalisé la bourgeoisie vénitienne avec ses gros souliers de montagnard et sa bicyclette et s'était allié à une partie des prêtres par son apostolat populaire. Le jour de son couronnement, il avait refusé de cindre la tiare. Je crois, devait affirmer 20 ans plus tard un cardinal de la Curie, que son bref pontificat a été comme une bouffée d'oxygène pour la vie de l'Église, comme l'aube d'une journée lumineuse.
Et j'ajouterai avec Chesterton que la société se laisse convertir par les saints qui la contredisent le plus. Le pape François va bien, il est plein d'énergie et de force, il a même rajeuni malgré ses lourdes responsabilités. C'est un prêtre argentin qui nous l'a confié à l'issue de sa rencontre avec le Saint-Père samedi au Vatican. Mieux connu sous le surnom de Padre Pépé, le père José Maria di Paola, qui exerce son apostolat dans les banlieues les plus défavorisées de Buenos Aires, a bien connu le cardinal Bergoglio quand il était archevêque de la capitale argentine. Après l'avoir revu à Rome, il se dit convaincu qu'il a la force nécessaire pour guider l'Église. Il est content, raconte-t-il, quand on lui parle de son pays d'origine. Il n'oublie pas ses racines, mais il sait que son avenir, c'est à Rome, comme pasteur de l'Église universelle. Il n'a pas changé, il se comporte exactement comme quand ses prêtres allaient le voir à la curie de Buenos Aires. Il a la même simplicité, il n'a jamais été un prince, mais un serviteur de l'Église. Il a toujours été proche des gens, surtout des plus nécessiteux. Passionné de football, ce pape aurait été un bon directeur technique, conclut le Padre Pépé avec humour, et ses compétences en la matière, il les applique à l'Église. Alors, qui sera le prochain secrétaire d'État du Vatican ? C'est une nomination importante, attendue depuis l'élection du pape François, et qui donne lieu à toutes sortes de conjectures, spéculations et bruits de couloir. Le secrétaire d'État actuel, le cardinal Tarcisio Bertone, avait été nommé à ce poste par Benoît XVI en 2006, puis confirmé provisoirement dans cette fonction par le pape François. Ce dernier n'aime pas agir dans la précipitation. Le pape argentin préfère prendre son temps, rencontrer, consulter, recueillir les avis et les conseils, et pourrait, selon certains, procéder procéder à une redéfinition de ce rôle clé au sein de la Curie romaine. Alors, qu'est-ce que la secrétaire d'État? Comment est-elle organisée? Quel est le rôle du secrétaire d'État? Autant de questions que nous avons posées à Éric Lebec, journaliste et écrivain, auteur de plusieurs ouvrages sur le Vatican et la papauté.
La secrétaire d'État est un bureau du Vatican, du Saint-Siège, qui a pris beaucoup d'importance et qui est devenu central au XXe siècle. L'usage, la tradition, est qu'il n'y a pas d'adjoint au pape. Il n'y a pas de sous-pape, de vice-pape, de numéro 2. Il y a le pape et puis ses collaborateurs sont devant lui et ne prennent d'ordre que de lui. Et puis ce secrétariat d'État, qui était au départ le secrétariat des relations avec les princes, a pris un rôle de plus en plus important. Au XXe siècle, un pape sur deux vient de la secrétaire d'État. Le pape Pie XII a été son propre secrétaire d'État, ce qui, dans les faits, a renforcé cette administration.
Comment la secrétaire d'État est-elle organisée? Quel est son rôle et quelles sont ses attributions?
Il y a donc à la secrétaire d'État deux sections, celle qui est la plus voyante et qui nomme et gère la diplomatie vaticane, et puis il y a celle des affaires générales qui, de fait, est devenue le premier des ministres dans un gouvernement. Il se dit beaucoup que le pape François entend diminuer l'importance de la secrétaire d'État en lui réservant et la limitant seulement à l'action diplomatique, qui est quelque chose de très important, puisque l'action diplomatique ne concerne pas seulement la presque totalité des États du monde, mais aussi un grand nombre d'organisations internationales où se prennent des décisions, décisions qui ont la force des traités et qui s'imposent aux lois des États. C'est donc un lieu d'influence, un lieu missionnaire, particulier sans doute, mais très important.
Selon vous, quelles seraient les réformes à faire au sein de la secrétaire d'État?
Il est anormal que ce soit des diplomates, c'est-à-dire des personnes dont le métier est de chercher le consensus, qui soient responsables des missionnaires. Je veux dire par là des évêques. La secrétaire d'État est devenue, par la force des choses, une bureaucratie, une commodité. Puis, je dirais, ce sont les personnes les plus cultivées, les plus remarquables, souvent titulaires de doctorats, qui parlent plusieurs langues, qui sont dans la secrétaire d'État. Et il faut bien dire que les gens de la secrétaire d'État sont une sorte d'élite, et non pas démérités. Mais enfin, c'est devenu un petit peu trop. Quel est le pays qui est commandé par sa diplomatie? La diplomatie, c'est quand même un service secondaire dans le gouvernement d'un pays.
Des propos recueillis par Manuela à Fidji. Selon un commentateur américain, cependant, le pape François ne changera pas l'Église en tant que telle. Les attentes des catholiques dits progressistes, séduits par sa douceur, son humour et sa transparence, risquent d'être déçues. Contrairement à une idée reçue, le pape François n'est pas un révolutionnaire. Certes, il a posé des gestes forts, des signes de rupture qui ont pu choquer l'establishment, mais il ne faut pas confondre le style, la gestualité, l'humilité, l'attention aux plus pauvres avec une volonté de révolte contre l'orthodoxie catholique. En 2007, le cardinal Bergoglio avait comparé l'avortement à la peine de mort. En 2010, il avait qualifié le mariage entre personnes de même sexe comme contraire à la loi de Dieu inscrite dans les cœurs. Le pontife argentin ne cédera donc pas à l'esprit égalitaire du libéralisme moderne. Pour ce même commentateur, la seule révolution possible pourrait concerner le fonctionnement de la Curie romaine. Sur la doctrine, en revanche, rien ne bougera. Et alors que que la communauté internationale n'exclut pas une action forte en Syrie, je vous propose de réécouter dans le cadre de nos rediffusions estivales un entretien avec Mgr Ravel, évêque aux armées françaises. Nous l'avions rencontré à Rome à l'occasion de la visite ad limina des évêques de France en décembre dernier. Il nous avait parlé du rôle des aumôniers militaires catholiques et aussi de la vie de ces militaires qui sont souvent amenés au cours de leur mission à vivre des situations extrêmement difficiles où beaucoup côtoient la mort au quotidien. Leurs familles, elles aussi, doivent supporter les conditions et la vie propre à l'engagement militaire, l'absence et l'angoisse générées par la participation aux opérations extérieures, le déracinement géographique. C'est dans ce cadre que se situe la présence et l'action de l'aumônier militaire. Mgr Ravel, interrogé par Hélène Destombes.
Les aumôniers militaires ont précisément pour rôle d'accompagner les hommes de partout où qu'ils soient, sur terre, sur mer, dans les airs aussi bien sûr, puis aussi sous l'eau. Mais avec notre spécificité, alors nous avons une spécificité catholique, c'est-à-dire que précisément, non seulement nous devons aider par les sacrements, je pense à deux sacrements qui ont beaucoup d'importance pour nos militaires, suivant les situations, c'est le sacrement de la réconciliation, sous la menace du feu et dans le stress de la peur constante. Mais on a aussi le devoir d'injecter cette doctrine sociale de l'Église, concrètement, et essayer d'éclairer d'abord le militaire qui est dans l'action. Alors ça, c'est à titre, je dirais, de morale personnelle, voilà, ils vivent des choses parfois très dures non seulement au plan émotionnel, mais aussi au plan moral, au plan éthique. Donner la mort n'est pas une chose très simple. Et puis, on a aussi le rôle d'éclairer le commandement. Alors, il y a une chose, par contre, qui, aujourd'hui, en tout cas pour les armées françaises, nous est peu demandée, c'est de conseiller le politique.
Vous l'avez dit, être militaire, c'est aussi donner parfois la mort, ce qui pose des problèmes de conscience.
En tant que militaire, il est appelé à côtoyer la mort constamment. Laquelle ? La sienne d'abord, celle de son frère d'armes à côté et celle qu'il peut donner. Et je peux vous dire que les trois sont très traumatisantes. C'est la mort à une triple dimension. La sienne parce que quand il y a des roquettes qui tombent en permanence ou toutes les nuits sur votre camp, il est clair que c'est une réalité très difficile de comprendre qu'on passe cette conscience universelle de la mort à une conscience très précise, c'est-à-dire que ça peut être mon heure aujourd'hui. Alors, il y a la mort du camarade, et ça, il ne faut jamais l'oublier, c'est très certainement aussi un aspect très traumatisant. Surtout que parfois, ce sont des morts qui sont non seulement rapides, mais qui détruisent le corps humain. Donc, il y a un impact psychologique très fort d'avoir entre ses bras, d'avoir parfois ramassé les morceaux de son frère d'armes, ou essayer de le soigner, lui poser les gestes. Et puis, alors, il y a, bien sûr, la mort qu'on doit donner. C'est la plus problématique au sens éthique du terme. J'oserais dire.
Et plus l'on est croyant, plus cela doit être problématique.
Alors, on sait bien sûr que l'Église autorise la légitime défense. Donc, on peut être effectivement amené, pour se défendre, à donner la mort. La vocation du militaire, c'est de défendre sa patrie ou défendre des valeurs, alors qu'il ne se sent pas nécessairement attaqué directement. Alors, concrètement sur le terrain, voyez, lorsque vous êtes tireur d'élite, et que vous avez dans votre viseur quelqu'un qui ne vous agresse pas particulièrement, il est peut-être à 800 mètres, 1 km, 1 km et demi, mais vous le voyez. Et vous savez que ça fait partie de votre mission de l'éliminer. Et là, la question évidemment se pose, au niveau traumatisme psychologique et question éthique.
Pie XII avait dit « il faut humaniser la guerre », mais est-ce possible ?
Oui, précisément. C'est pour cela qu'il y a des militaires et c'est pour ça qu'il y a des aumôniers militaires. La guerre est une catastrophe humaine, ça signifie qu'on n'a pas réussi à s'entendre ou que des folies humaines ont pris le dessus sur le bon sens. Donc ça, c'est important de le dire. Donc en ce sens-là, on va dire, mais humaniser la guerre, c'est donc impossible puisque c'est une folie. Et justement et précisément, parce qu'il y a une part de folie dans la guerre, de folie initiale. Déclencher la guerre, pourquoi ? Pour conquérir quelques kilomètres carrés qui vont être repris quelques décennies ou quelques années après. Mais pourquoi ? Donc, il y a une folie. Mais cette folie, ensuite, est entretenue par le climat de violence. Et c'est justement le rôle de vrais militaires qui sont, comme l'a dit Jean-Paul II, sentinelles de la paix. D'être des hommes particulièrement rompus à cette violence pour ne pas se laisser emporter par elle. Vous voyez, par exemple, il y a quelque chose sur lequel les aumôniers me renvoient beaucoup d'écho, c'est qu'effectivement, quand vous avez eu votre camarade mort devant vous exploser, le sentiment de vengeance commence à vous habiter dans votre cœur. Et il faut vraiment une maîtrise de soi pour se dire, d'accord, pour la légitime défense, pas au-delà. Et donc, le militaire, s'il est bien formé, c'est pas simplement quelqu'un qui sait manier des armes, c'est quelqu'un qui est solide humainement, et qui est capable de ne résister à cette spirale de violence parce que précisément, il y est envoyé pour la casser. Voilà le rôle du militaire, et c'est en ce sens-là qu'ils peuvent, s'ils sont soutenus spirituellement, humaniser la guerre.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.